Dupuis.
Les titres du journal.
Extension de l'école, nouvelle crèche UAPE et bibliothèque. Le projet retenu à Viona est désormais connu. Les détails dans ce journal. Le niveau du barrage de Salanf sur la commune d'Eviona est particulièrement bas cet été. Une situation qui s'explique notamment par un déficit de neige et de précipitations, mais qui reste normale pour la saison. Le Baluchon fête ses 20 ans. Créé par une éducatrice spécialisée, cette association valaisanne vient en aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Et en football, le FC Sion a lancé sa saison par un match nul en Azerbaïdjan contre le Baté Borisov. Il faudra dès lors s'imposer jeudi prochain à Tourbillon.
C'est encore une belle journée qui nous attend. Les températures seront chaudes, mais il faut en profiter avant l'arrivée des averses ce week-end. Météo complète en fin de journal. Un journal présenté par Valérie Favre. Bonjour Valérie.
Bonjour. Le projet d'extension du centre scolaire de Viona franchit une nouvelle étape. La semaine dernière, des habitants ont pu découvrir les 26 projets présentés dans le cadre du concours d'architecture destiné à agrandir l'école et à accueillir une nouvelle crèche UAPE, une future nurserie ainsi qu'une bibliothèque. Au terme de la procédure, le jury a retenu le projet du bureau sédunois chez Auré Associé SA. Pour la présidente de Viona, voir un bureau de la région remporter ce concours constitue une satisfaction. Valérie Bressou-Guérin.
On a la chance d'avoir un architecte proche de chez nous, donc un Valaisan, puisque ce concours est un concours international. On avait eu la chance d'avoir aussi un projet qui venait d'Italie. Donc c'est un projet qui a aussi concerné différents corps architecturaux qui venaient de Zurich, de Lausanne, etc. Donc on a beaucoup de chance d'avoir ce gagnant-là proche de chez nous.
Au-delà de son origine, c'est surtout la qualité du projet qui a convaincu le jury. On retrouve Valérie Bressou-Guérin.
Le projet qui est présenté a l'avantage d'être assez condensé sur le site, de permettre également d'avoir ces 6 classes souhaitées avec l'intégration de la bibliothèque au rez-de-chaussée, avec des entrées différentes entre bibliothèque et l'entrée école. Un choix qui était intéressant aussi dans la manière de réfléchir à l'entrée de l'école, la manière aussi de réfléchir à la sécurité au sein de cette école, et puis la manière aussi de traiter la crèche-garderie UAPE dans le sens où la structure est un petit peu familiale, avec comme une habitation familiale, et puis ça s'intègre très très bien dans le paysage.
Le projet est aujourd'hui estimé à près de 11 millions de francs, hors rénovation du bâtiment scolaire existant. Un sujet signé Julie Gué. Mercredi, en fin d'après-midi, un accident impliquant un véhicule de chantier s'est produit à Trois-Torrents. Un homme circulait à bord d'un véhicule de chantier et il aurait perdu le contrôle de son engin alors qu'il manœuvrait entre la lisière de la forêt et la pente abrupte. Le véhicule et son conducteur ont alors dévalé la pente boisée sur environ 30 mètres. Malgré l'intervention rapide des secours, les équipes engagées sur place n'ont pu que constater le décès du conducteur. La victime est un Suisse âgé de 61 ans.
L'eau du barrage de Salanf, au-dessus de Salvan, affiche un niveau particulièrement bas.
De quoi surprendre les promeneurs qui découvrent les berges habituellement immergées. Pourtant, la situation n'a rien d'exceptionnel pour cette période de l'année, en cause notamment un hiver peu enneigé et des précipitations déficitaires. Mais l'ouvrage possède aussi une particularité qui accentue le phénomène. Les explications de Michael Plachy, responsable de la production hydraulique chez Alpiq, en charge de l'exploitation du barrage de Salanf.
Alors oui, les lacs sont actuellement assez bas au niveau de nos barrages, mais il y a, comme vous l'avez dit, rien d'exceptionnel. On l'explique par le fait qu'il y a eu une pluviométrie cette année assez faible, de manière globale, par rapport à ce que l'on a d'habitude. Et puis surtout aussi, on a eu des volumes de neige qui ont été plus bas. La fonte des neiges qui a lieu depuis, on va dire, mois de mai jusqu'à maintenant, mois de juillet, amène aussi pas mal d'eau dans ces barrages. Et comme il y a eu moins de neige, on a ces barrages qui sont un petit peu moins remplis que d'habitude. Dans le cas de Salanf, par exemple, il y a aussi un événement supplémentaire, c'est qu'il n'y a pas les glaciers. Normalement, l'effet est compensé par la fonte des glaciers, s'il y a moins de neige, les glaciers sont plus apparents. Et puis avec les températures assez élevées qu'on a eues, il y a eu cette fonte qui a fait que dans l'ensemble, on est quand même sur un taux de remplissage relativement standard dans les normes. Dans le cas de Salanf, on est un petit peu plus bas parce qu'il n'y a pas cet apport des glaciers.
Si son niveau est bas actuellement, cet ouvrage n'occupe toutefois pas une place déterminante dans l'approvisionnement énergétique du pays. On retrouve Michael Plachy.
Alors, il faut remettre un petit peu Salenf aussi dans le contexte du portefeuille hydraulique suisse et aussi du portefeuille hydraulique d'Alpiq. Donc, c'est pas un ouvrage qu'on appellerait systémique. Donc, c'est pas lui qui va impacter sur l'importance de la sécurité d'approvisionnement en Suisse. Bien sûr, c'est un barrage aussi important qui a ses propres communes concédantes. Donc, on essaye aussi d'optimiser chacun de ces barrages. Mais au niveau de la production d'électricité en Suisse, c'est pas Salenf qui est le détonateur ou du moins le point le plus important.
En Suisse, la sécurité de l'approvisionnement repose sur l'ensemble du parc hydraulique. Les grands ouvrages de stockage comme la Grande Dixence ou Émosson jouent un rôle bien plus important lors des pics de consommation hivernaux. Un sujet signé Ludovic Turin.
Depuis 20 ans, l'association valaisanne Le Baluchon vient en aide aux familles d'enfants en situation de handicap.
De Sierre à Saint-Gingolf, plus de 100 habitants d'entre elles bénéficient ainsi d'un soutien à travers des ateliers et des activités. Le but de cette association créée par l'éducatrice spécialisée Anne-Catherine Bruchet, apporter de l'autonomie à l'enfant et des outils pour les parents et les frères et sœurs. En tant que coordinateur, Jean-Paul Glore est le premier lien entre les familles et les futurs intervenants. Cette première approche commence par une explication claire et des objectifs de l'association.
Ce que je leur dis, et ce qui est important, c'est que justement, on n'est pas des spécialistes de tel ou tel handicap. On est des généralistes qui, depuis 20 ans, côtoient divers handicaps et puis qu'on a une expérience du terrain, une expérience de la pratique, une expérience quelles activités sont les plus adaptées, comment on peut atteindre les objectifs qu'on a mis en place avec les parents pour réussir à accompagner au mieux. Puis au niveau des objectifs, les rendre autonomes, que dans la socialisation, ils ont une capacité d'être en relation, parce qu'on a quand même beaucoup d'enfants actuellement qui ont des TND, des troubles neurodéveloppementaux, donc c'est-à-dire troubles du spectre de l'autisme, troubles de l'attention avec hyperactivité. Et puis, je pense que c'est important qu'on puisse les aider à être en relation dans la société, puis les rendre dans une autonomie qui leur permettra dans le futur d'être à même de le vivre au mieux.
Et pour célébrer les 20 ans du Baluchon, une fresque participative sera réalisée à Martigny en collaboration avec les enfants bénéficiaires ainsi que l'artiste de Montreux, L'Original, un sujet réalisé par Léa Journaux. Le président du gouvernement tessinois, Claudio Zalli, est sous pression après la diffusion de propos controversés qui lui sont attribués et qui appellent à la violence contre une femme. Cette affaire s'ajoute à celle déjà examinée par la justice, l'accusant de violation de la séparation des pouvoirs. Les faits impliquant le Conseil d'État Zalli sont multiples et concernent des aspects particulièrement importants pour l'exercice de ses fonctions. Dans ce contexte, le Parti libéral radical et le Centre estiment que les conditions nécessaires à l'exercice serein et efficace de la fonction de membre du Conseil d'État ne sont plus réunies.
Vacanciers ou résidents, ce sont 40 000 personnes qui étaient évacuées aujourd'hui de la presqu'île de Cap-Ferret.
Par la route et par la mer, face au plus gros feu de la saison, selon le ministre de l'Intérieur, qui dévore la forêt en Gironde, mais aussi dans les landes voisines. Pour le moment, il n'y a aucune victime à déplorer, mais 80 maisons ont été brûlées, dont une cinquantaine ont été détruites, a précisé le ministre. Ce plan d'évacuation complet, inédit, préparé en 2023 par les autorités locales, a été conçu pour évacuer 10 à 14 000 personnes dans les 24 heures, en priorisant les personnes vulnérables, d'après la préfecture girondine. Face à une situation sous très forte tension, le président Emmanuel Macron a annoncé la nuit dernière avoir demandé l'activation du mécanisme de protection civile de l'Union européenne et avoir obtenu le renfort de moyens aériens qui devraient arriver rapidement. Car en parallèle, un autre incendie a été déclenché par un véhicule hier après-midi près de Biscarros et s'est rapidement propagé, parcourant plus de 2500 hectares jusqu'aux portes de la ville et conduisant à l'évacuation de 23 000 personnes selon le SDIS des Landes.
Incendie encore, une situation dramatique selon le Premier ministre espagnol.
Des feux difficiles à contrôler d'après les secours. L'Espagne en proie aujourd'hui à plusieurs incendies simultanés, dont plusieurs aux portes de la capitale, attisés par les vents et la vague de chaleur, entraînant l'évacuation de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Les autres feux se situent dans un rayon d'environ 100 km autour de Madrid, dont le plus important dans la province de Guadalajara, au nord, qui a ravagé 32 000 hectares en une semaine. Le Brésil a enregistré en 2025 son plus faible taux d'homicide volontaire en 14 ans, selon des données publiées hier par une ONG spécialisée. Un progrès assombri par des records de létalité policière et de féminicide. Le nombre de féminicides a augmenté de 4% par rapport à l'année précédente et a atteint son maximum en valeur absolue depuis le début des relevés de l'ONG en 2015. La sécurité est une préoccupation majeure des Brésiliens et un sujet brûlant à moins de 3 mois de la présidentielle, lors desquelles Luiz Inácio Lula da Silva cherchera une réélection. En football, le FC Sion a lancé sa saison par un match nul en Azerbaïdjan. Pour son premier match de l'exercice, il avait rendez-vous hier soir avec les Biélorusses du Batay Borisov à l'occasion du match aller du deuxième tour des qualifications de Conference League. Dans un stade complètement vide en raison du huis clos ordonné par l'UEFA, les Valaisans n'ont pas eu besoin de beaucoup de temps pour se mettre en jambes. Mais à force de manquer des occasions, ils ont fini par se faire surprendre au quart d'heure de jeu sur l'unique occasion adverse de la première période. À la 42e, Winsley Botelli est venu remettre les compteurs à zéro et récompenser les efforts de son équipe. Un score d'un partout qui n'a pas évolué par la suite malgré plusieurs occasions sédunoises. Dominateur durant les 90 minutes de jeu, les Valaisans ont effectivement eu plus de peine à se montrer dangereux au retour des vestiaires. Selon le défenseur Nouma Lavanchi, le FC Sion a payé son début de match très énergivore.
On est parti fort, je pense qu'on est parti vraiment très fort. Et c'est vrai qu'au fil du match, c'était un peu plus compliqué. Je pense qu'en fin de match, il y a eu un peu plus de déchets dans les choix et dans les gestes parce que voilà, c'est forcément éprouvant. Mais comme j'ai dit, c'est un très bon match. Franchement, on peut le prendre de manière positive, même si forcément on aurait voulu gagner pour se donner un petit avantage avant le match retour. Mais de toute façon, le match, il faut le jouer. Donc, qu'on soit 1-1 ou 2-1, on va le jouer. Mais voilà, comme j'ai dit, on a les moyens de faire les choses bien parce qu'on a vu aujourd'hui que voilà, eux, ils se créent une occasion et ils marquent. Et nous, on fait le jeu, on a la balle et on développe des belles choses. Donc c'est de bon augure pour la suite.
Le FC Sion devra donc s'imposer jeudi prochain à Tourbillon pour accéder au troisième tour qualificatif de Conference League. Et au vu du match aller, les Sédunois peuvent se montrer confiants à condition de gommer les petites erreurs, souligne un autre défenseur, Yann Kronig.
Oui, on sait que chez nous, ils vont rester bloc bas encore. Et là, il faut qu'on est juste dans notre gestion. Et c'est bien si on marque tôt. Et après, on sait qu'on a les qualités pour gagner ce match. Mais les derniers gestes, les frappes, ça doit être plus juste que qu'est-ce qu'on a montré aujourd'hui.
Juste un mot sur l'environnement. C'était votre premier match européen. À vous, comme à beaucoup de vos coéquipiers, jouer dans un stade vide. Qu'est-ce que ça représente?
Ouais, ça c'est un peu dommage qu'on n'avait pas les supporters aujourd'hui. Mais voilà. Fier d'avoir fait le premier match avec ce groupe, parce qu'on a vraiment un beau groupe, mais on va tout faire que ça termine à Tourbillon.
Des propos recueillis par nos confrères de Rhône FM.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.